honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable député de sénateur, mes chers compatriotes, comme de coutume, voici devant vous pour présenter l'état de la nation. Je veux bien voulu me livrer à cet exercice dans une ambiance de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire. Et passer en revue les activités menées dans tout le secteur de la vie nationale. Mais hélas, notre pays traverse des moments difficiles. Une fois de plus, une guerre injuste n'est impossible. Tout a été dit sur cette guerre d'impression de la part du monde. Sont fournis aussi bien par nos services spécialisés que par les différents rapports des Nations Unies. Soyez cependant rassurés, la République démocratique du Congo va se conduire et notre programme de reconstruction nationale et de modernisation va se poursuivre. Honorables députés et sénateurs, la situation de notre pays étant telle, vous conviendrez avec moi que je focalise l'essentiel de mon propos sur la situation sécuritaire et humanitaire actuelle dans la province du Nord-Kivu. En effet, moi, dès lors qu'une partie du territoire national se trouve en péril, c'est toute la République démocratique du Congo qui est concernée et interpellée. Ce qui son développement est hypothéqué, car sans paix, sans sécurité, tout effort de développement n'est qu'une illusion. Je voudrais dès lors vous entretenir d'abord de cette situation. Je vous exposerai ensuite des efforts engagés ainsi que les pistes de solutions en vue à court, moyen et long terme pour y mettre fin. Honorables députés et sénateurs, c'est depuis le mars 2012 que la solde des intérêts étrangers ont entrepris de semer des troubles de la désolation dans la province du Nord-Kivu. À l'origine, ce fut une mutinerie justifiée par les allégations de non-application par le gouvernement de la République de l'accord de paix du 23 mars 2020, conclu entre le gouvernement et une trentaine de groupes d'armée. Aujourd'hui, l'accord n'est contesté par un seul d'entre eux, mais en fait par quelques-uns d'entre eux. Cette mutinerie s'est ensuite muée en une rébellion aux motivations fluctuantes et élastiques, variant en fonction des agences et des circonstances. La stratégie mise en place est simple. Susciter des foyers de tension et provoquer l'insécurité à plusieurs endroits de la République. Décourager les investissements et empêcher la mise en œuvre du programme de reconstruction nationale. Bref, essayer avec Tao de justifier la balkanisation de notre pays. Honorable député, le sénateur, au moment où je vous parle, près d'un million de nos compatriotes du Nord Kivu vivent le cauchemar d'une guerre que nous n'avons ni directement ni indirectement provoquée. Dont les véritables concepteurs et commanditaires sont aussi insaisissables que le sont leurs motivations profondes, sujet à vous, parce que inavouables. Poussés à l'errance, victimes d'actes de terrorisme et d'exactions propres à un otage, nos compatriotes des territoires de Rutshuru et Nyiragongo sont privés du droit le plus élémentaire à toute personne humaine. Meurtre, assassinat, viol, enlèvement, détention arbitraire, enrôlement forcé des enfants mineurs, pillage systématique de biens de particuliers et de biens publics sont perpétrés à la grande échelle. Meurtrie au plus profond de nous-mêmes, nous exprimons à ses compatriotes affiliés notre fraternelle compassion. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont trouvé la mort du fait de cette guerre. De même, nous rendons un hommage mérité aux vaillants soldats, caporaux, officiers, comme aux éléments de la police nationale et des services de sécurité qui ont combattu avec bravoure et dont certains sont tombés sur les champs d'honneur. En leur mémoire, à tous, je vous convie à garder une minute de silence. Je vous remercie. Honorables députés et sénateurs, n'en déplaise aux prophètes de malheur qui projettent le démembrement de notre pays, la République démocratique du Congo est et restera toujours un état de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible. Il est vrai que nous avons il y a peu perdu une bataille. Mais comme dans la vie d'un homme, un échec dans l'existence d'une nation n'est pas une fatalité. Le plus important, c'est de se ressaisir et de se donner les moyens de se projeter positivement dans la vie. Apprêtons-nous donc à défendre notre mère patrie jusqu'au sacrifice suprême. C'est dire que nous ne ménagerons aucun effort pour reconquérir le territoire occupé. Rien, aucune souffrance, aucune privation, aucune adversité ne fera apprécier notre détermination à défendre l'intégrité territoriale, à préserver l'unité et la cohésion nationale. Honorables députés et sénateurs, pour mettre fin à cette nouvelle guerre, nous nous sommes dès le début déployés sur trois fronts diplomatiques, politiques et militaires. Sur le plan diplomatique. La guerre au Nord Kivu et la situation humanitaire qui a engendré ont justifié notamment la convocation en 7 mois de 5 sommets extraordinaires de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. De 2 sommets de la SADC, un forum de haut niveau qui a réuni 24 entités, des États et organisations à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies. D'une rencontre tripartite, République démocratique du Congo, République du Rwanda et États-Unis d'Amérique. 2 résolutions du Conseil de sécurité et 3 déclarations de son président. Grâce à cette offensive diplomatique, les États de la région des Grands Lacs ont officiellement et unanimement identifié toutes les forces négatives qui sévissent. Vu la dégradation de la situation et l'érosion conséquente de la confiance entre notre pays et le Rwanda, l'intervention d'une force internationale mixte a été décidée par la même région, avec pour mission la surveillance de la frontière commune entre notre pays, le Rwanda et l'Ouganda d'une part, et d'autre part, l'éradication des forces négatives. S'agissant de cette force, notre pays, premier concerné par la crise, s'est déjà acquitté de ses engagements. Pour sa part, la SADC, afin de prêter main forte aux efforts du gouvernement et de la région des Grands Lacs, a décidé, lors de son dernier sommet de surveillance et du gouvernement, de participer directement à la concrétisation de la force internationale neutre en activant et en rendant disponible ses forces en attente. En ce qui concerne la MONUSCO, en dépit de certaines réalisations communes indiscutables, telles que la réunification du pays depuis 2003 et l'accompagnement dans les processus démocratiques en cours dans notre pays, force est de constater que la crise actuelle a donné la preuve, une fois de plus, des limites de l'approche de son action dans notre pays. D'où une profonde frustration du gouvernement et de la population congolaise. Pour ce part, force d'observation, ensuite de devenir une force de maintien de la paix avec une mission particulière de protéger la population, ces résultats demeurent jusqu'ici médiatisés. C'est pourquoi, tout en poursuivant notre collaboration avec les Nations Unies, nous avons exigé un réaménagement de son mandat afin de le mettre en phase avec la réalité du terrain. Nous attendons les discussions actuellement en cours au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'elles aboutissent à son renforcement. Sur le plan politique, poursuivant la quête d'une solution à ce conflit, le gouvernement a accepté de rencontrer, sous l'égide de la région des Grands Lacs, ceux qui ont comploté à agresser la République démocratique du Congo afin d'éviter le prétexte de la déstabilisation. Une délégation officielle, représentative de toutes les institutions politiques de notre pays et de la
la société civile a été dépêchée à Kampala pour des échanges qui ont commencé lundi dernier. S'agissant de la nature de ce mouvement, de ses dirigeants, de ses motivations et de ce projet, la vérité est connue de tous, au pays, dans la région, comme partout ailleurs dans le monde. Et je tiens à préciser que les échanges de Kampala ont pour objet de clarifier les enjeux et de situer les responsabilités dans cette guerre. Honorables députés et sénateurs, le troisième front est celui dans lequel se trouvent engagées les forces armées de la République démocratique du Congo. Certes, nous poursuivons nos efforts diplomatiques et politiques, mais après toutes les expériences vécues, comment ne pas constater l'attitude et les agissements de ceux qui nous font la guerre de manière récurrente prouvent que seule une armée républicaine forte nous permettra de garder notre dignité et de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Désormais, au-delà de toutes nos actions pour le développement, notre priorité sera la défense de la patrie. La défense, rien que la défense, avec une armée dissuasive, une armée nationale, apolitique et professionnelle. Bref, une armée qui rassure notre peuple dans toute sa diversité, une armée dont notre peuple sera fier et qui soutiendra en tout temps et en toutes circonstances. C'est dans cette optique que nous entendons poursuivre à un rythme plus accéléré le renforcement des capacités de nos forces armées. À cet effet, toutes les lois concernant la réforme des forces armées, ainsi que leurs mesures d'application devront être scrupuleusement observées. C'est ici, pour moi, l'occasion de lancer un appel à la nation tout entière, pour que désormais elle s'approprie l'enjeu de la défense nationale. De même, conformément au programme du gouvernement, je demande à chacun d'entre vous, dans sa sphère d'action et d'influence, de sensibiliser notre jeunesse à s'enrôler massivement au sein de nos forces de défense et de sécurité, afin que celles-ci deviennent le rempart implacable de la défense de la patrie. Sur ces trois fronts, diplomatique, politique et militaire, nos efforts vont se poursuivre sans relâche, jusqu'à la victoire et à une paix définitive et durable pour nous-mêmes et pour la région. Honorables députés, honorables sénateurs, la situation dans laquelle se trouve notre pays ne doit pas détourner notre attention et nos énergies de la recherche d'un Congo plus radieux. Certes, l'année qui s'écoule a été difficile, mais elle nous a permis de réaliser des avancées incontestables. au plan politique, les différentes actions engagées ont été focalisées sur le renforcement de notre jeune démocratie et la consolidation de l'état de droit. Les dernières élections des gouverneurs des provinces dans le Bas-Congo, la province orientale et le Kasaï occidental, ont démontré la vivacité de notre système politique, dans lequel toutes les libertés sont admises et les contradictions acceptées. La Commission électorale nationale indépendante, qui a fait l'objet d'un large débat dans les deux chambres du Parlement, est en cours de réforme. La décentralisation, exigence de notre Constitution, se poursuit. D'importantes étapes ont été franchies. Il en est ainsi du transfert de certaines compétences aux instances provinciales. Le projet de loi organique fixant les limites de province et celle de la ville de Kinshasa, ainsi que celui portant formation de modalités d'installation de nouvelles provinces, sont en examen au Parlement. Je voudrais cependant attirer votre attention sur quelques pratiques en cours dans nos assemblées. Si le débat caractérise la démocratie, les agissements de certains responsables n'augurent pas de l'exercice d'une bonne gouvernance. Le débat politique doit se tenir dans le respect des règles de la décence, de la courtoisie et avec un sens de responsabilité. L'homme d'État, attentif aux intérêts de la nation, ne saurait se confondre à ce politicien qui n'est plus élu que leur propre carrière. En cette période de guerre, la mobilisation de tous est requise. Ne tombons pas non plus dans le piège de la stigmatisation, quelle que soit, ethnique ou communautaire, régionale ou politique. Il n'est pas une République pour la majorité et une autre pour l'opposition. Nous avons une seule République, c'est la République démocratique du Congo. Honorables députés et sénateurs, dans l'élan de consolidation de l'État démocratique, différentes autres initiatives et actions ont été menées. Le Parlement vient de voter la loi relative à la création de la Commission nationale des droits de l'homme. Un projet de loi sur la parité homme-femme a été adopté. Et dans un autre registre, notre pays a accueilli avec dignité, organisé et dirigé avec efficacité le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, qui pour sa 14e session s'est réunie pour la première fois dans son histoire en Afrique centrale. Quant aux réformes économiques, elles ont donné des résultats encourageants. Un taux de croissance de 7,2%, un taux d'inflation de 3%, un des plus bas de notre histoire, une monnaie nationale stable et des réserves et change de plus en plus d'importance. Cependant, beaucoup de Congolais semblent fatigués d'entendre parler d'excédent budgétaire et de la stabilité du cadre macroéconomique, alors que les conditions de vie de nos populations ne s'améliorent pas dans les mêmes proportions. Un peu de créativité, doublé de volontarisme s'impose. La dure réalité est quasi significative, qu'il soit des acquis de ces dernières années, mais sont une étape de la longue marche vers la pleine satisfaction des attentes de la population, singulièrement en termes d'emploi et de revenus. Nous devons donc redoubler d'efforts. En ce qui concerne notre programme de reconstruction nationale et modernisation, comme je l'ai dit au début de mon adresse, nous sommes déterminés à le poursuivre sans désemparer. C'est pour notre pays la condition de son émergence. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorable député et sénateur, chers compatriotes, pour nous affaiblir, la guerre nous a été imposée à nouveau. Il nous incombe de la transformer en opportunité. Opportunité de raffermir encore davantage notre volonté de vivre ensemble en tant que Congolais. Convaincus d'être unis par le sort et délibérément unis dans le force pour bâtir un pays toujours plus beau et préserver à jamais notre indépendance et notre souveraineté. L'opportunité aussi de repenser nos priorités, de consacrer à la défense du territoire national une part conséquente de nos énergies et de nos ressources. L'opportunité de jeter des bases qui permettent à notre pays de devenir, à tous égards, une véritable puissance, ultime assurance contre tout projet diabolique, garantit la sécurité des Congolais et de leurs biens, de la paix sociale et de la stabilité nationale et régionale. Il est en effet important, au sortir de cette guerre, par les décisions que nous prendrons et les réformes que nous poursuivrons, par l'unité de volonté et d'action dont notre peuple fera la démonstration, que notre message aux ennemis de notre pays soit clair et sans équivoque. Toute nouvelle tentative d'agression sera suicidaire. Pour y parvenir, la cohésion nationale est plus que nécessaire. Elle requiert de nous que nous oublions nos divergences pour nous retrouver autour de ce qui nous est le plus cher à tous, le Congo. Cette cohésion, honorables députés et sénateurs, ne peut souffrir d'aucune conditionnalité. Elle se réalisera dans un cadre approprié et ouvert à toutes les forces politiques et sociales du pays. Une initiative sera prise incessamment à cet effet, et les modalités de sa réalisation en seront précisées les moments venus. Face à une situation historique qui met la nation en péril, plus qu'une responsabilité, la cohésion nationale s'impose à nous tous. Acteurs politiques, société civile, forces de défense et de sécurité et toutes les forces vives de la nation. La défense de notre cher et beau pays est l'affaire de tous, de même que la préservation de la paix nous concerne tous. Je suis convaincu qu'avec l'implication de chacun de nous, et avec l'aide de Dieu, ce défi sera relevé. Honorables députés et sénateurs, mes chers compatriotes, je vous remercie pour votre attention.